Luc chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Albène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Voilà, nous étudions l'évangile de Luc, et maintenant que Noël est derrière nous, nous passons à la suite, ici en chapitre 3. Les années ont passé depuis la naissance de Jésus. Les premiers versets nous permettent de se situer dans le contexte historique. Et donc ici, nous trouvons le résumé que Luc fait du ministère de Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais Jean-Baptiste était certainement le meilleur prédicateur, le plus grand prophète, le meilleur orateur que Israël ait jamais vu. Bien sûr, le succès de son ministère a été éclipsé par l'arrivée de Jésus, et le plan de Dieu l'a voulu comme ça. Et notre attention se porte immédiatement plutôt sur Jésus dans la suite de cet évangile. Mais Jean-Baptiste, il avait une voix, il était une voix, il était un messager hors pair. L'évangile de Matthieu précise que les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays, des environs de Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Ça, c'est un prédicateur, ça, c'est un prophète. Hormis peut-être Jonas à Ninive, je ne connais pas d'autres prophètes de l'Ancien Testament qui a vu une telle réponse à son message. Et c'est très étonnant quand on y pense, parce que Jean-Baptiste, quelque part, il avait tout faux pour réussir. Déjà, la manière qu'il s'habillait, ce n'était pas à la mode. C'est pas ça qui attirait la foule vers lui. En plus, il n'est pas allé vers les gens, il ne s'est pas installé dans le centre-ville. Non, allé, il s'est installé au fin fond du désert de Judée, et c'est là où il prêchait, et tout le monde venait à lui. Et le pire, bien sûr, c'est que son message, le contenu de son message, c'est le genre de message qui passe pas, quelle que soit l'époque, c'est le genre de message qui passe très mal, puisqu'il parle de jugement, il parle de péché, il parle de colère, il demande la repentance, la confession des péchés. Même, il est allé jusqu'à dénoncer l'immoralité sexuelle des autorités, des politiciens. Ça, il ne faut pas faire, si on veut réussir. Il a fait. Et à cause de ça, donc, comme Luc conclut cette partie, à cause de ça, son ministère a duré finalement très peu de temps, puisqu'il a été emprisonné. Donc, un ministère de très courte durée, au fin fond du désert, un gars un peu bizarre, et pourtant, quel ministère ? Aucun miracle, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, il prêchait, il parlait, il était cette voix auprès de cette foule. Et vous savez, un bon prédicateur, il a toujours beaucoup d'illustrations. C'est le cas de Jean-Baptiste et de Jésus d'ailleurs. Leurs messages sont remplis d'illustrations, d'illustrations parlantes, saisissantes. Et dans le discours de Jean-Baptiste, en fait, dans ce chapitre 3, j'ai compté au moins 7 images, 7 métaphores, 7 illustrations. J'en ai fait la liste et je propose ce matin de les revoir pour mieux comprendre son ministère et son message. D'accord ? Donc les illustrations de Jean-Baptiste dans sa prédication. Tout d'abord, le roi qui arrive. C'est ce qu'on trouve dans les versets 4 à 6. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. » Ce qui tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Peut-être ça ne saute pas aux yeux pour nous, mais c'est l'image qui ressort dans ces versets, c'est un roi qui arrive pour être reçu dans une ville. À l'époque, et encore peut-être de nos jours, les grands seigneurs, les notables, quand ils rendent visite à une ville, en général, une délégation est envoyée au préalable pour préparer le chemin, pour vérifier que tout est en ordre, pour recevoir un grand personnage. Parfois, il faut même travailler sur le chemin. C'est un peu le même principe quand vous faites un chemin de fer ou une route pour les voitures. Il ne faut pas qu'il y ait des virages trop serrés ou des pentes trop raides. Donc, on va devoir combler par ici, on va devoir abaisser par là. D'ailleurs, j'ai cherché un peu, vous connaissez tous le champ Élysée à Paris, avec le rond-point, l'Arc de Triomphe, mais à l'époque, là où il y a l'Arc de Triomphe aujourd'hui, le rond-point, l'étoile, il y avait une colline, une montagne, la montagne de la Roule. Mais un jour, ils voulaient faire une route, donc les architectes du roi ont nivelé la montagne pour qu'il y ait une route. Et maintenant, on a le Champs-Élysées et toutes ces routes qui passent par là. C'est moins pratique quand il n'y a pas de montagne au milieu. Et c'est parfois ce qu'ils faisaient à l'époque, quand un roi devait passer quelque part, il fallait agencer le chemin pour que, voilà, il reçoive tout confort qu'il mérite sa royauté. Et même à Toulouse, on connaît un peu ce principe à Toulouse, non pas avec l'arrivée d'un roi, mais avec l'arrivée d'un A380. Vous connaissez, il a fallu agencer les routes du côté Léguevin et par Hoche et tout ça, avec les grands engins qui passent par là. Il fallait que, voilà, il fallait qu'on trouve le chemin qui va bien et pour que tout puisse arriver. Il a fallu aplanir les sentiers, préparer le chemin, vous voyez. Et à l'époque, surtout, l'arrivée d'un grand roi comme ça nécessitait ce genre de préparation. Et même aujourd'hui, on parle de mettre le tapis rouge. On met un tapis rouge, c'est vraiment le chemin par lequel va passer le roi ou le personnage important. Et Jean-Baptiste, il avait cette tâche, ce ministère particulier de préparer le chemin de qui ? D'un grand roi qui allait rendre visite à son peuple. Et le grand roi, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même, toute chair verra le salut de Dieu, Dieu lui-même qui vient en Jésus-Christ. Il fallait préparer le chemin, mettre le tapis rouge
pour Jésus-Christ.
Mais alors, c'est quoi le tapis rouge pour Christ dans cette image, puisque c'est une illustration, une métaphore? C'est quoi le tapis rouge? C'est quoi lui préparer un chemin? Eh bien, le tapis rouge qu'on peut offrir à Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est un cœur contrit. C'est un esprit, une attitude de repentance qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît son besoin d'un sauveur, d'un salut. Et c'est ce que Jean est venu mettre en place pour que l'arrivée du sauveur trouve tout son intérêt, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est pour ça qu'il a prêché un tel message. Il était venu pour mettre en place le tapis rouge. Et le tapis rouge auquel il appelle des gens à voir, c'est la repentance. Et les gens qui se repentaient, ils le signifiaient par ce baptême que Jean pratiquait. Et c'est ça qui est fort. Jésus, il ne demande pas la grande pompe comme certains rois, il ne demande pas des fanfares. Il ne demande pas de courir mans et veaux ou de faire toutes ces rites religieux. Mais par contre, ce qu'il veut, c'est ce désir d'aplanir ce qui est tortueux et tordu dans nos propres cœurs, dans nos vies. Peut-être il y a une montagne d'orgueil qu'il faut aplanir, qu'il faut confesser. Peut-être il y a une fosse de jalousie, d'amertume, qui a besoin d'être comblée avec l'amour et le pardon. Peut-être il y a des pensées tordues, perverties, qu'il faut redresser. Ça, c'est ce qu'il veut qu'on admet dans nos cœurs. Mais Dieu aime un cœur contrit. Pour lui, c'est la voie d'honneur. C'est le tapis rouge sur lequel il peut entrer dans une vie. Et Jean-Baptiste est en train de leur dire, voilà, si vous préparez ce chemin, si vous mettez en place ce tapis rouge, alors vous verrez le salut de Dieu. Vous allez comprendre Jésus-Christ. Vous allez trouver tout votre intérêt. Vous allez comprendre pourquoi il vient. Mais si vous ne mettez pas en place, si vous ne préparez pas le chemin comme ça, il va passer à côté. Donc, le roi qui arrive, qui mérite qu'on lui prépare son chemin, et la meilleure manière de faire ça, c'est un esprit de repentance. Et bien sûr, je vous conseille, une fois que vous avez mis en place ce tapis rouge, mais laissez-le en place pour toujours, hein, gardez ce tapis rouge dans votre vie, même pour 2014. Un esprit de repentance, d'humilité, prompte à confesser devant le Seigneur. C'est ainsi qu'on maintient notre communion avec lui et qu'il puisse vraiment arriver dans nos cœurs. Deuxième illustration, c'était les vipères qui fuient. Si on avance dans notre texte, dans le verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et en étudiant, en réfléchissant, l'image de vipère m'a paru d'autant plus fort en réfléchissant au contexte que Jean-Baptiste, où il se trouvait Jean-Baptiste, parce que justement, Jean-Baptiste, on dit qu'il prêchait dans le désert, verset 2, et dans cette région du monde, justement, on trouve certaines races de vipères qui aiment ce genre de terrain. Vous les avez certainement déjà vus, ces vipères, ils sont un peu enfouis dans la terre, dans le sable, ils ont la peau à peu près de la même couleur. Et ils s'enfuient comme ça pour se protéger de la chaleur qu'ils peuvent faire dans ces régions. Mais s'il y a une forte chaleur, encore plus forte, comme un feu par exemple, alors là, on voit plein d'animaux, notamment ces vipères, qui fuient leur cachette pour échapper, qui fuient la chaleur du feu. Et l'image est parfaite pour décrire le comportement de ces gens, surtout les pharisiens et les sadducéens. Les autres évangiles disent que voilà, c'est surtout cela que Jean visait par son message en verset 7. C'est surtout cela qu'il appelait « race de vipères », bien tout en s'adressant à la foule entière. Le message brûlant, presque incendiaire de Jean-Baptiste sur le jugement, ça les a agités, ça les a fait sortir un peu dans leur conscience. Ils voulaient quand même voir cet homme qui prêchait un tel message. Mais Jean-Baptiste les avertit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Est-ce que c'est juste pour fuir une situation inconfortable? Ou est-ce que vous avez vraiment envie de changer? C'est un peu sa question. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer? Ou est-ce qu'au fond, vous êtes resté des vipères et que vous êtes juste dérangé un peu par la chaleur, le feu du jugement que j'annonce? Ou bien est-ce que vous souhaitez vraiment un changement de fond en comble? Un changement de nature, un changement de race? La vraie repentance, c'est ainsi. Mais il y a un genre de fausse repentance qui veut juste échapper un peu les effets dérangeants ou pénibles du péché. Vous savez, il y a des situations, des crises dans notre vie qui nous éveillent, qui nous font sortir un peu de notre vie normale, qui peuvent même produire parfois une démarche de vouloir s'approcher de la religion, s'approcher de Dieu, de se réformer un peu. Mais est-ce qu'il y a un vrai changement? Parfois, nous sommes ce race de vipères aussi. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un désir de changement? Et c'est ce que Jean va... Il met le droit sur ça, sur ces personnes. Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce qu'il y a des fruits dignes de la repentance qui montrent que vraiment, ce n'est pas juste la fuite ou la peur du jugement, mais qu'il y a vraiment un amour pour Dieu et pour sa parole et pour son Fils qui vous envoie? Vous savez, ce que j'ai pu remarquer, la peur de l'enfer, la peur du jugement n'est pas une motivation suffisante pour en faire un chrétien véritable. C'est un pas peut-être, mais il faut plus, il faut un amour pour Dieu. Il faut un changement total de cœur. Pour ça, il faut un miracle. Mais ce miracle, Jean va l'évoquer dans l'image, l'illustration suivante, donc le roi qui arrive, les vipères qui fuient, mais aussi les pierres qui vivent. Verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Encore, vous savez, le désert en Judée, ce n'est pas du sable fin à perte de vue, comme le Sahara, par exemple. C'est un terrain rocheux, caillouteux. On pense à Jésus quand il était dans le désert tenté par Satan. Satan lui avait demandé de transformer des pierres en pain. Donc certainement la terre était parsemée de pierres un peu partout. Et on peut très bien imaginer Jean-Baptiste qui pointe vers des pierres autour de lui en disant, voilà, ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et là encore, nous avons une forte leçon sur la repentance. En fait, la repentance est une affaire personnelle, pour tous, universelle. Il avertit ces gens, il ne faut pas dire, nous n'avons pas besoin, nous, de se repentir ou d'être baptisés, parce que nous, ça y est, nous sommes nés dans une famille croyante, nous sommes nés dans la race d'Abraham. C'était ça qui était fort et choquant avec le ministère de Jean-Baptiste, parce que ce baptême, jusqu'à là, c'est vrai, le baptême, on ne le trouve pas vraiment dans l'Ancien Testament. Le principe du baptême, c'est quelque chose qui va être développé dans le Nouveau Testament. C'est vrai, lorsque les non-juifs se convertissaient au judaïsme, il y avait en effet une démarche de purification, un genre de baptême. Mais c'était pour les non-juifs qui voulaient devenir juifs en quelque sorte. Mais la nouveauté radicale de Jean-Baptiste, c'est qu'il appelait tous, il appelait les juifs à se faire baptiser en signe de repentance. Ils auraient pu bien se dire, mais nous, c'est bon, hein, on n'a pas besoin de faire ça. Mais Jean les avertit, Dieu n'a pas besoin de vous pour accomplir sa promesse envers Abraham, pour accomplir son plan de salut. Et là, il dit quelque chose de très fort, il dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. C'est une image extrêmement forte, étonnante. Dieu peut-il faire ça, vraiment? Eh bien, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que vous êtes, en quelque sorte, si vous êtes croyant en Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Nous qui étions des pierres mortes, qui avaient un cœur de pierre, qui n'aimaient pas Dieu, qui ne voulaient pas se repentir, eh bien Dieu a opéré ce miracle dans nos cœurs. Il a fait vivre des pierres que nous sommes. C'est lui qui a opéré ce changement radical qu'il faut. Il nous a transformés. De vipères que nous étions, il nous a fait brebis du Seigneur. D'incroyants que nous étions, il nous a transformés en croyants. Il a suscité. Nous sommes ces pierres, en quelque sorte, que Dieu a suscité pour être des enfants d'Abraham. Nous faisons partie des enfants d'Abraham, c'est-à-dire des croyants. C'est ça. On ressemble à notre père Abraham dans la mesure que l'on croit dans la promesse de Dieu de nous sauver par la grâce. Donc encore une image intéressante des pierres qui vivent. Et puis j'ai regroupé quelques illustrations que Jean-Baptiste utilise. La hache qui coupe et le van qui trie. C'est en verset 10 et encore en verset 12. J'ai regroupé les outils de bûcheron et d'agriculteur. Mais c'est un peu la même idée dans les deux cas que Jean annonce. C'est que Dieu, il va trier. Dieu, il sait faire la différence entre le cœur contrit sincère, qu'il aime, qui le cherche, et puis les autres, qui peut-être ont une façade de religion. C'est pour ça qu'il dit « Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé ». Vous savez ce que c'est un van? Moi-même, j'ai dû chercher en anglais, je sais ce que c'est un van, mais ce n'est pas le même sens ici. Du vaner, du mot vanage, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement à quoi il avait en tête, mais peut-être un panier, vous avez ces paniers où on secoue, et puis ça sépare un peu le grain de la paille. Ou peut-être il avait en tête une espèce de fourche à paille. On jetait la paille dans l'air, le vent emportait la paille et laissait retomber le grain qu'on voulait garder. Et cette image revient en verset 17. Il a son van dans la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier. Et donc Dieu va trier. Et il s'adressait notamment à ces personnes, notamment les autorités juives, les pharisiens, les sadduciens. Ils avaient besoin d'être avertis ainsi, parce que eux, l'intérieur de leur cœur était pourri, avaient besoin de ce travail de préparation, de repentance. L'extérieur peut sembler correct, mais l'intérieur était pourri, comme un arbre qui est malade. La forme est là, les feuilles ne sont peut-être pas là, mais certains arbres sont morts à l'intérieur. Et dès qu'on se rend compte, on sort la hache pour l'abattre. Et Jean-Baptiste les avertit, hein, là. Et Dieu vous voit, il voit votre cœur pourri, et donc lui il sort son hache. La racine, l'arbre est la cognée est mise à la racine. C'est ça du sien pharisien ainsi. Mais par contre, ce qui est touchant, c'est de voir le genre de personne qui a répondu au message de Jean-Baptiste. Vous voyez dans les versets 12, 13, 14. Ce qui est pour ces gens-là, les gens corrects, n'ont pas forcément été touchés, mais les publicains, les soldats, les autres, eux, on les voit sensibles au message de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, ces publicains, ces soldats, c'était des gens qui étaient les plus loin de Dieu. Les collecteurs d'impôts, les publicains, c'était vraiment la bassesse la plus totale, la bassesse morale la plus totale dans cette société. Et puis les soldats, peut-être c'était des Romains, peut-être c'était des Juifs qui travaillaient pour la compte des Romains, mais c'était pas des personnes spécialement pieuses. Mais eux, ils répondent à Jean-Baptiste, « Maître, que devons-nous faire ?» Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste ne leur dit pas à démissionner immédiatement. C'est pas le message qu'il donne aux publicains ni aux soldats. On aurait pensé que c'était ça la solution, démissionner immédiatement. Mais quelque part, il vise plus loin, il vise le cœur. Il dit, soyez honnête, soyez intègre, soyez juste, soyez généreux. C'est ça, signe de vraie repentance. Quand c'est le cœur qui change. Encore le message de Jean-Baptiste qui vise le cœur. Comme Dieu, il vise le cœur quand il fait son tri. Puis j'ai trouvé intéressante cette remarque qui dit aux soldats, aux fonctionnaires, pour ainsi dire, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Vous imaginez si Jean-Baptiste disait ça aujourd'hui en France. Là, tout le monde passe. Pas d'extorsion, pas d'exploitation, mais pas de grévisme, pas de revendication, contentez-vous de votre solde. Tout le monde passe à ce tri devant Dieu. Et nous avançons. Et puis une sixième image, une illustration que j'en donne, c'est le baptême qui ne mouille pas, verset 16. Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce que Luc veut nous aider à comprendre, c'est que le ministère de Jean-Baptiste, ce n'était qu'une préparation. Être contrit pour ses péchés, les confesser, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Et Jean est le premier à reconnaître que lui-même, il n'est pas la solution, il n'est pas le Christ. Jean se posait la question, alors il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il faut surtout celui qui vient après moi pour régler le problème, pour apporter le salut. » Et c'est ainsi qu'il parle, il dit, « Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » C'est quoi ce baptême du Saint-Esprit de feu dont parle Jean? Selon lui, c'est ce qui compte vraiment, c'est l'essentiel, c'est ça qu'il faut. C'est le ministère de Jésus qui compte vraiment. Et moi, je pense, quand il parle de Jésus qui baptise de l'Esprit Saint et du feu, c'est sa manière d'expliquer toute l'œuvre de Christ, toute son œuvre de salut. Il a dit, moi, je vous plonge, je vous baptise dans l'eau. Mais Jésus, il va vous plonger, il va vous immerger dans la personne de Dieu, dans son esprit. Et c'est ça qu'il vous faut vraiment, que Dieu vive en nous. C'est ça qui produit ce changement radical qu'il nous faut. Ça m'a fait penser à 1 Jean 3, 24. Nous connaissons que Dieu demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Pour que Dieu demeure en nous, il nous faut son Esprit. Il nous faut être immergé, plongé dans son Esprit. Ce qui permet enfin de produire les fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas juste un vœu, une résolution que l'on fait au début de l'année et qu'on oublie aussitôt après. Donc, il nous faut Dieu, il nous faut son esprit en nous. Il nous faut être plongé en lui. Mais pour ça, il va devoir nous purifier complètement. Parce que si on a fait comme Jean-Baptiste nous a dit de faire, on constate que nos cœurs ont souvent des chemins tortueux, raboteux, qui ont besoin d'être réglés. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de feu, je pense. Le feu, c'est quelque chose qui purifie, qui stérilise parfois. Et ce qu'il faut, parce que la repentance en elle-même n'est pas suffisante, la repentance reconnaît la présence du péché en nous, mais la repentance en soi ne règle pas le péché. Ça, vous le savez bien, je pense. Si quelqu'un vous casse la voiture, votre voiture, et puis vient vous dire, « Ah, je me repens vraiment. Je suis sincèrement, sincèrement désolé. Je me repens vraiment la repentance la plus totale et sincère d'avoir cassé votre voiture. Vraiment, j'aurais pas dû faire ça. » On est quitte maintenant? Au revoir? Non, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir demandé pardon, mais la voiture reste cassée. La question qui se pose maintenant, c'est la réparation. Qui va payer ça? Et le message ici, c'est que Jésus, il est venu purifier. Et pour nous donner son Saint-Esprit, il doit purifier nos cœurs, il doit faire réparation de tous ces péchés qu'on vient d'avouer, qu'on vient de confesser. Il faut que quelqu'un fasse réparation. Et c'est Jésus qui paie la réparation. Et pour le faire, il est mort à la croix pour nous et là encore, il nous plonge dans sa mort et dans sa résurrection pour nous purifier. L'eau ne peut pas faire ça. Le baptême des hommes, que ce soit le baptême de Jean-Baptiste, que ce soit le baptême du prêtre, que ce soit le baptême d'un pasteur, ne sauve pas, ne purifie pas. Alors il faut ce baptême de feu, si je prends la même image de Jean-Baptiste, où nous sommes immergés dans l'œuvre de Christ à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça qui nous purifie. Effectivement, c'est un baptême qui ne mouille pas, qu'il nous faut vraiment. Ce baptême qui est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Un jour plus tard, Jésus utilisera cette même image, ces mêmes expressions pour parler de sa mort, pour parler de la croix. Il dit, il me tarde, j'ai un baptême dont il me tarde d'accomplir. Vous voyez ce que Jésus fait pour nous. Il nous donne, il nous plonge dans sa personne qui est le Saint-Esprit et il nous purifie par ce feu qui est sa mort. Et puis une dernière image que Jean-Baptiste nous laisse, verset 17, « Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, un feu qui ne s'éteint pas. » C'est un drôle de feu puisqu'il ne s'éteint jamais. Et là, c'est une des dernières paroles qu'il laisse dans ce chapitre, en tout cas à la foule. Il venait parler du feu dont Jésus baptise, mais là, c'est un autre feu. Soit on passe par le feu qui purifie, le feu qui sauve, qui est la croix, soit on passe par le feu qui ne s'éteint pas, qui est l'enfer. Soit les péchés sont punis sur Christ à la croix, soit par la justice de Dieu en enfer. Ça, c'est logique, c'est juste, c'est la justice qui s'accomplit. Et Jean-Baptiste annonçait ces choses. Et nous avons une image très forte de ce qu'est l'enfer, par ce feu qui ne s'éteint point, jamais, qui parle de l'éternité de la chose. Mais c'est verset 18 aussi qui m'a surpris. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. C'est ainsi, il vient de parler d'un feu qui ne s'éteint point, de la hache qui coupe, du jugement, de la repentance. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle. Alors, ça, c'est pas une très bonne nouvelle quand même. Où est la bonne nouvelle si on parle d'un feu qui ne s'éteint point? Bien, déjà, la réalité du jugement dernier de l'enfer est, je pense, une bonne chose qu'on a besoin de garder en tête. Parce que si vous enlevez toute notion de jugement, ce monde a peu de sens. Si vous enlevez toute notion de jugement final, dernier, ça veut dire que Hitler n'a pas vécu mieux ou pire qu'un autre. Ça veut dire que Hérode, qui va faire exécuter Jean-Baptiste, il n'a pas fait mieux ou pire que Jean-Baptiste lui-même. Tous terminent de la même manière. Cela veut dire aussi que toute atrocité, toute haine ne sera jamais réglée. Tout péché. Donc quelque part, on a besoin, nous tous, d'avoir en tête la réalité d'un jugement dernier. Mais, donc en soi, c'est déjà une bonne nouvelle en quelque sorte, mais surtout la bonne nouvelle que Jean annonçait, c'est ce résumé de tout ce qu'il disait pour préparer le chemin, pour pointer nos regards vers Jésus. Jésus, bien sûr, c'est lui qui va subir le feu, ce feu de l'enfer en quelque sorte, il va le subir pour nous en délivrer. Voilà la bonne nouvelle à laquelle Jean nous prépare à recevoir. Le jour où Jésus est arrivé sur scène, dans la suite, plus ou moins, on n'avait plus vraiment besoin de Jean-Baptiste. Alors Dieu, il s'occupe de le mettre de côté, parce qu'il a servi comme Dieu l'a voulu, et puis il laisse la place à celui qui est plus puissant, plus grand que lui. C'est ainsi que Jean l'a voulu,
Et voilà, il se retrouve en prison. Quelques versets que Luc nous apporte sur le ministère de Jean-Baptiste. Le jour où Jésus arrive, on n'avait plus vraiment besoin de Jean-Baptiste. Et c'est pareil pour nous, le jour où Jésus arrive dans notre cœur, il n'y a plus besoin de craindre l'enfer, craindre la mort, craindre le jugement. Plus besoin de craindre les mauvaises nouvelles, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez donc, Jean était une voix sans égale dans l'histoire de la Bible pour préparer le chemin. Il a fait, sa vie entière était une prédication, sa vie entière était une illustration de ce que Dieu peut faire dans une vie. Nous aussi, nous voulons que nos vies entières soient des voies pour Dieu, comme notre frère Louis a pu l'être dans son entourage. Dieu vous accorde aussi des occasions d'être cette voie qui prépare le chemin, qui pointe vers Christ. Nous voulons que nos vies entières soient des illustrations, des images de ce que Dieu fait, de sa réalité, pour que tout le monde puisse voir le salut de Dieu à travers nous, à travers notre message. Prions ensemble.